Shalom, je vous dis shalom maintenant, je vous dirai shalom ce soir, parce que ça veut dire bonjour et bonsoir. Et le mot shalem, ça vient aussi, la racine du mot shalem, c'est du mot shalom, c'est shalem, qui veut dire être complet. Donc quand on a la paix, on est complet. Et il y a un autre mot de la même racine, c'est l'échalem, ça veut dire payer. Quand quelqu'un a payé pour nous, eh bien nous sommes complets, nous sommes dans la paix. Et ici, ce verset nous montre que Jésus, sauveur de l'humanité, a payé pour nos péchés sur la croix. Eh bien, il nous a rendus complets et il nous a donné sa paix. Et nous ne sommes plus sous sa colère, mais nous sommes sous sa paix. Donc, nous sommes des ouvriers de paix, des ambassadeurs pour Christ. On va faire une petite rétrospective de ce qu'on a vu hier, quand l'amour de Christ nous presse à devenir ses ambassadeurs. Et nous avons parlé du grand besoin pour pouvoir aimer, comme on l'a entendu, de sortir de nos préjudices, de nos préjugés, et de pouvoir ouvrir au maximum la possibilité d'aimer son prochain. La réconciliation, c'est que nous puissions être capables de ne pas voir la personne selon la chair, selon ce qu'il nous a fait ou pas fait. Et si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné ce ministère de réconciliation. Voilà, donc, au verset 20, nous faisons les fonctions d'ambassadeur. On a parlé, qu'est-ce qu'un ambassadeur ? Représentant d'un pays étranger. Nous représentons le royaume de Dieu, c'est notre royaume. Nous sommes en camping ici, sur cette terre. Mais nous sommes des ambassadeurs du royaume, des citoyens du royaume de Dieu. Et comme si Dieu exhortait par nous. Il y a ce ministère d'exhortation que Dieu nous a donné en tant qu'ambassadeur. Et ce ministère, nous vous en supplions au nom de Christ. Et c'est très très fort en grec. Nous vous supplions vraiment au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Est-ce que nous sommes réconciliés avec Dieu ? Nous ne pouvons pas réconcilier d'autres personnes avec Dieu si nous ne sommes pas nous-mêmes réconciliés avec lui. Le mot connaître Dieu dans le Tanakh, dans l'Ancien Testament, c'est la relation personnelle, intime, comme un homme et une femme se connaissent. Adam a connu Ève et ils sont devenus une chair. C'est ça le mot connaître. Nous, souvent, on est influencé par la pensée grecque, qui la connaissance, c'est quelque chose d'intellectuel, c'est un savoir qu'il faut atteindre, alors que dans la parole, la pensée biblique, connaître, eh bien, c'est avoir une relation intime. Nous pouvons avoir de la connaissance intellectuelle, nous pouvons connaître beaucoup de choses au sujet de Dieu, mais le connaître personnellement, avoir un face-à-face avec lui, c'est ça que le Père nous demande. Voilà, mon père, il habite pas très loin d'ici, dans le nord de la France. Moi, j'habite en Israël, 4000 kilomètres. J'ai une relation avec lui, on se parle des fois au téléphone, mais c'est différent vraiment quand je viens le voir et quand il me fait les lasagnes, fait maison, et qu'on peut manger autour de la table et le voir. Je me rends compte que je le ressemble de plus en plus, plus les années passent. Et là, cette relation personnelle, c'est ce que le Seigneur désire avec nous. Passer du temps avec lui. Et plus on connaît une personne, eh bien plus on passe de temps avec lui. Pour connaître quelqu'un, il faut passer du temps avec lui. Alors ma question, je vais vous poser, est-ce que vous avez passé du temps avec le Seigneur aujourd'hui? En sa présence, est-ce que vous avez pris le temps? Vous savez, j'ai entendu plusieurs personnes qui se sont réveillées très tôt le matin. Et je veux vous dire que quand le Seigneur nous réveille le matin, c'est qu'il veut nous parler. Parce qu'il est le Seigneur de la journée, mais il est aussi le Seigneur de la nuit. Vous connaissez le livre de Esther ? Le livre de Esther, c'est le livre où le roi Xerxès a renvoyé sa femme et il a choisi une autre femme, une jeune fille. Il a amené toutes les jeunes filles du royaume de Perse. Et est venue cette fille Hadassa, qu'on a appelée Esther, juive, qui est devenue la reine. Et cette femme, cette jeune femme, avait été choisie pour un seul but, de sauver le peuple d'Israël de la destruction. si vous vous souvenez du livre d'Esther. Mais le verset le plus important, c'est au chapitre 6, au verset 1, qu'il est dit « Le roi, qui ne pouvait pas dormir cette nuit, appela ses serviteurs pour rapporter le livre des chroniques. Et il a commencé à lire et s'est rendu compte que Mardochée, l'oncle de Esther, lui avait sauvé la vie. » Si vous vous souvenez, il y avait un complot dans le palais et les serviteurs du roi voulaient le tuer et Mardochée a empêché ce crime de se passer. Parce que le roi ne pouvait pas dormir, eh bien, le peuple d'Israël a été sauvé. Si vous n'arrivez pas à dormir la nuit, faites comme le petit Samuel. Vous vous souvenez, quand il a été réveillé, « Seigneur, parle-moi, car ton serviteur entend. » Et le Seigneur, il est disponible 24 heures sur 24, donc il s'attend à ce que nous soyons disponibles aussi, nous, 24 heures sur 24. Alors s'il vous réveille à 4 heures du matin, ce n'est pas le moment de prendre le Valium ou le, je sais pas comment vous appelez ça, hein, les médecines, mais c'est le moment de prendre la parole. Parle, Seigneur, car ton serviteur veut t'entendre. Et souvent, le Seigneur, moi, il me dit, écoute, je te réveille à 4 heures du matin parce que t'as jamais le temps. Et là, au moins, t'es tranquille. Voilà. On est tellement occupé à faire le travail du Seigneur qu'on n'a plus de temps pour le Seigneur du travail. Et je crois qu'il y a un défi ici pour nous, que notre première priorité, c'est passer du temps avec papa. Vous vous souvenez, c'est le ministère de Jésus. Du matin jusqu'au soir, il était occupé à servir, prier. Mais le soir, il entrait dans cette relation personnelle avec le Père. Et les disciples l'ont vu. La clé, ils ont vu le secret du ministère de Jésus. Et les disciples ont dit à Jésus, « Enseigne-nous comment prier. » C'est très intéressant. Ils n'ont pas demandé, « Enseigne-nous comment évangéliser. Enseigne-nous comment prier pour les malades. Enseigne-nous comment faire construire l'église. » Ils lui ont seulement demandé, « Enseigne-nous comment prier. » Ils se sont rendus compte que tout le secret, la force, l'autorité venait justement de cette relation personnelle avec le Père. Nous sommes appelés à prendre du temps avec papa. À prendre du temps. Et c'est la chose la plus importante. Et souvent, parce que nous sommes des personnes de responsabilité. Vous savez, j'ai quand même 25 ans d'église. Et je peux vous dire que souvent, le temps presse. Mais quand j'oublie de prendre le temps avec papa, alors toutes les autres choses commencent à, comme on dit, à foirer. Ça ne va plus. Et je vais vous demander, passez du temps avec le Seigneur. Vous êtes dans un endroit calme, tranquille. On est ici pour se rencontrer, pour se connaître, mais aussi on est ici pour rencontrer le Seigneur. Ma prière, c'est que vous ayez un temps face à face, un péniel, face à face avec le Seigneur aujourd'hui. Alors, soyez réconciliés avec Dieu. Le mot réconciliation, en grec, katalasso, un changement, une transformation, un retour de l'inimité à l'amitié, définit un changement d'attitude d'ennemi en ami. Nous étions ennemis de Dieu, et le Seigneur est venu nous réconcilier. Il y a eu un échange à la croix. Il est mort afin que nous recevions la vie. Il a été blessé afin que nous recevions la guérison. Il a été humilié, nu sur la croix, afin que nous recevions sa gloire. Il a porté sur nous nos péchés et nos peines. Le mot apokatalasso, qui veut dire se réconcilier complètement, c'est l'annulation de toute inimité. La réconciliation se fait toujours avec des personnes avec qui nous avons un contentieux négatif. On avait un contentieux négatif avec le Seigneur et ça a été la réconciliation à travers le sang de Jésus. Et ce contentieux négatif, maintenant, nous sommes appelés à être réconciliés. ce qui était concilié et qui est maintenant déconcilié a besoin d'être réconcilié. C'est de ça que je veux parler, de la réconciliation. Alors, Corinthiens 1, verset 21. « Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. » Alors je crois que c'est intéressant de voir ce verset, ce que le Seigneur nous demande ici. Pour être saint, irrépréhensible et sans reproche, il faut être quoi ? Réconcilié avec lui, avec le Père. Et pour être réconcilié avec le Père, nous avons besoin de retourner, de revenir. Romains chapitre 5, versets 8 à 10. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. On en a parlé hier. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de lui, par lui, de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés maintenant, serons-nous sauvés par sa vie. Et nous seulement, cela, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Yeshua, Jésus le Messie, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Alors, c'est important de dire que le mot « salut », sauvé ne veut pas seulement dire recevoir la vie éternelle, mais c'est aussi la guérison, la restauration, l'œuvre de Dieu en nous qui nous régénère, qui nous donne la vie, qui nous réconcilie. Il y a dans le livre de Deux Rois quelques versets qui sont très intéressants et je veux vraiment partager avec vous ces pensées. Quand les fils des prophètes disent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi, il est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre, c'est-à-dire un tronc d'arbre, hein, et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs, et il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux, et arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois, et comme l'un d'eux abattait un arbre, le fer de la hache, tomba dans l'eau, et il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté !» Et l'homme de Dieu lui dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place, et il fit surnager le fer. On voit un miracle qui se passe. Les fils des prophètes, vous savez, Élie, il avait organisé aussi des écoles, de prophètes, des écoles où ces personnes enseignaient et partageaient la bonne nouvelle du royaume. Et Élisée, qui a repris la succession de Élie, vous vous souvenez de l'histoire, il n'y a pas de succès sans successeur. Je crois que c'est très important de comprendre que chacun d'entre nous, notre appel, notre mission, eh bien, c'est de trouver des successeurs pour nous remplacer. Vous savez, dans la 1 Jean chapitre 2, il est parlé des petits-enfants. Petits-enfants, vous avez connu le Seigneur. Jeunes gens, hein, vous êtes forts et vous avez vaincu l'ennemi. Et pères, il y a des enfants, il y a des jeunes gens, il y a des pères. Et moi, souvent, je dis, ce sont des stages de la maturité spirituelle. Le connaître, la puissance de la résurrection et l'identification avec ses souffrances. Alors on veut tous être des enfants, on veut le connaître, ça c'est sûr. La prière de l'enfant c'est donne-moi, donne-moi, donne-moi. On va dans les réunions de prière, Seigneur donne-moi, donne-moi, donne-moi. D'accord, très bien. La prière des jeunes gens c'est quoi ? Oh je veux faire, je veux accomplir. Allez on va y aller, on va gagner. C'est faire. Et c'est très bien de faire. Allez et faites des disciples. Les jeunes gens, il faut de l'action. Nous sommes tous appelés à des Indiana Jones, comme on dit. Hein? Pourquoi les gens vont voir des films d'action ? Eh bien, c'est parce que nous sommes appelés pour l'action. Voilà, donc c'est bien, des jeunes gens. Et puis, il y a les pères. Et les pères ne demandent ni à faire, ni à avoir, mais à être, à représenter le caractère de Dieu sur terre. Et je parle ici avec des gens qui ont mon âge, plus ou moins. On est déjà parents, peut-être déjà grands-parents. Je crois que c'est la chose la plus importante dans le corps du Christ. parce qu'il y a énormément d'orphelins, il y a énormément de jeunes personnes qui ont besoin eh bien, d'un père spirituel, d'une mère spirituelle, et l'esprit de l'adoption est très très important. Nous sommes dans une société où beaucoup de personnes sont complètement... les racines n'ont plus de racines. Et donc, nous avons un rôle à jouer en tant qu'anciens, en tant que pères, justement pour donner cette identité à la personne, afin qu'elle puisse se tourner et grandir dans la foi. Moi, j'étais très content de voir ces deux pasteurs d'église et avec le frère là, qui était là, au milieu. Et c'était bien de voir qu'il y avait la jeune génération, mais il y avait aussi les anciens. Et je crois que c'est ça la vie de l'église. La vie de l'église, c'est pas... Souvent, on a une église pour les jeunes, une église pour les noirs, une église pour les jaunes. Mais l'église, c'est quoi? C'est qu'on est, on est tous réunis ensemble. Les jeunes, les moins jeunes, les bébés, on est tous réunis ensemble. Alors, regardez, c'est une parenthèse hein, que je fais. Élisée, il va aider les fils des prophètes, ils se font une maison. Et c'est intéressant parce que quand j'ai été visiter Jéricho, on m'a montré en fait sur la rivière du Jourdain, sur un des bras du Jourdain qui passe à Jéricho, eh bien il y a justement un monument qui représente en fait la maison de ces prophètes qui a été construite. Bon, elle était en pierre, hein, mais ils ont sûrement utilisé des poutres. Et voilà qu'ils ont emprunté une hache avec une hache de fer. Alors à cette époque-là, le fer était très 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 cher. Il n'y avait pas de fer en Israël. On l'achetait chez les Hittites qui sont au nord, en Turquie. Voilà. Donc le fer était importé. Il était très 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 cher et les haches de fer étaient... on le prenait pour la journée. Donc ils coupent l'arbre et voilà que le fer sort du manche et tombe dans l'eau, dans le Jourdain. Alors à cette époque-là, le Jourdain était beaucoup plus profond qu'il ne l'est maintenant. Et voilà, c'est perdu. On peut pas le retrouver. Et tout d'un coup, ce fils du prophète dit, il était emprunté. C'est-à-dire, je vais devoir le rendre. Et pour le rendre, à cette époque-là, on ne faisait pas de prêt d'argent. C'était l'esclavage. Donc la personne se présentait devant la personne à qui il avait emprunté et il disait, voilà, j'ai perdu la hache, eh bien, je dois maintenant te payer en temps. Et donc cette personne devenait esclave. Elle pouvait être esclave pendant une journée ou un mois, un an, deux ans, trois ans, selon l'importance eh bien, de cette hache. Ça coûtait très 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 cher. On voit le désespoir. Et Élisée pose une question que je vais vous poser à chacun d'entre vous. Où est-il tombé? Où est-il tombé, cette hache? Et il lui dit, il lui montra la place. C'est quoi la hache? La hache, il y a un manche et il y a un fer qui est très, 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 comment on dit? Coupant, tranchant. Voilà. C'est notre vie. Nous avons un manche, le tranchant du fer, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. C'est la puissance de Dieu. Est-ce que vous avez essayé de couper des arbres avec un manche de hache? Ça peut prendre 30 ans pour couper un arbre. On rit, mais des fois c'est ce qu'on fait. Sans le Seigneur, on peut couper un arbre pendant 30 ans, le même arbre, en tapant toujours. Très très peu de fruits, beaucoup d'activités. Et puis on s'étonne. Oh, les gens sont tellement fermés, c'est tellement dur de prêcher l'évangile. Ah bah oui, mais où est le fer? Où est le coupant? Où est la force? Où est l'autorité? Et le Seigneur nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez pas porter de fruits. Nous avons besoin d'être en relation personnelle avec le cep, avec Jésus. C'est de lui dont nous recevons la force. C'est de lui dont nous recevons la puissance. C'est lui qui nous donne l'onction, la sagesse. Et peut-être nous avons été comme ces enfants des prophètes, en train de couper des arbres, en train de rentrer dans la moisson, et puis tout d'un coup, on a laissé tomber ce fer. Il a été perdu. Il a été mis de côté. Et la grande question, c'est où est-il tombé? Je vais vous poser une question personnelle. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui a empêché cette relation avec le Seigneur de se développer? Est-ce qu'il y a peut-être dans votre vie des douleurs, des souffrances, des dissatisfactions, peut-être une épreuve dans votre ministère, dans votre vie personnelle, peut-être par rapport aux enfants, par rapport à votre couple, par rapport à des personnes qui vous ont blessé, où cette hache, ce fer, est tombée à l'eau. Et on se retrouve avec le manche, on essaie, on continue, on fait exactement les mêmes choses, les mêmes situations, le même travail, mais c'est dur. C'est dur. Et on galère. Et le Seigneur nous dit, c'est où? Où est-ce que c'est tombé? Où est-ce qu'il y a eu ce point de déconciliation qui a besoin maintenant d'être réconcilié. Où est-il tombé? Et tout de suite, il lui montre la place. Je vais vous raconter une blague. C'est la nuit. Une personne a perdu les clés de sa voiture. Alors il cherche dans la rue sous un lampadaire. Il cherche les clés de sa voiture. Et une personne vient. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? J'ai perdu les clés de ma voiture. Est-ce que vous êtes sûr que vous les avez perdues ici? Non, mais là au moins il y a de la lumière. Souvent, on cherche là où il y a de la lumière, alors qu'on doit retourner où les clés sont tombées, où le fer est tombé. Et souvent le fer, il est tombé dans un moment de ténèbres, dans un moment où on a essayé de zapper dans notre mémoire ces choses qui sont difficiles et douloureuses. On les a mis de côté, on les a poussées. Vous savez, c'est quand on essaie de pousser un ballon plein d'air dans l'eau, on passe tellement d'énergie, tellement de force à pousser ce ballon dans l'eau, et on peut y arriver tant qu'on a de la force, et puis il arrive un moment, tout revient. Et tout d'un coup, on se retrouve au milieu de la vie, avec toutes les choses qui nous reviennent. Toutes les choses qui nous reviennent. Et le Seigneur nous dit, tu vois, ces choses-là, il faut t'en occuper parce qu'elles vont revenir à un moment ou à un autre, c'est un boomerang. Que ce soit des choses qui sont passées il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, ou hier, ou il y a une semaine, il faut dealer avec ces choses. Le Seigneur veut les amener à la lumière. Il veut nous libérer, nous réconcilier. Et donc dans cette session ici, je voudrais simplement vous donner un défi. Est-ce qu'il y a quelques-uns d'entre nous qui ont laissé tomber le fer, qui ont laissé tomber cette relation vitale avec le Seigneur? On a besoin de retourner là où c'était. Souvent, quand on parle avec une personne, il nous dit « Oh, c'était super dans les années, je sais pas, ils vont dire dans les années 90, là, quand il y avait cette église et quand j'étais là, et c'est toujours par rapport au passé. » C'est-à-dire, on a dans notre vie, on a un sommet Et puis on croit l'avoir atteint et on revient toujours sur ce sommet. Oh, c'était super à cette époque quand il y avait, vous vous souvenez, il y avait... C'est le passé. Le Seigneur nous attend toujours devant. Il est le Dieu du présent avec le regard pour l'avenir. Et si nous sommes arrivés en pensant nos heures de gloire sont déjà passées, maintenant on va essayer de résister, de tenir le coup, eh bien je crois qu'on n'est pas vraiment dans le coup. Parce que le Seigneur est toujours devant nous. Et il nous appelle à aller de l'avant. Le meilleur est toujours devant nous. Et quelqu'un m'a dit, quelques années, nous sommes tous crucifiés entre deux voleurs. Vous savez, Jésus a été crucifié entre deux voleurs. Et nous, nous avons été crucifiés entre deux voleurs. Le premier voleur, c'est les regrets pour le passé, les regrets du passé. Ça, c'est plus pour les gens qui ont déjà passé un certain âge. Mais il y a aussi des jeunes aussi qui regrettent quand même le passé. Oh, si j'avais pu, si j'avais su, si j'aurais dit oui à cette femme, si j'avais dit oui à ce pasteur, si j'étais parti là-bas, c'est, on avec des si, on dit, on peut mettre bouvine en bouteille. Avec des si. Si, le regret. Le regret pour le passé. C'est un des voleurs. Je vous ai parlé hier de la femme de Lot. Hein? Oh. On peut avoir des regrets qui peuvent nous amener à la vie par la repentance. Parce que le Seigneur peut nous montrer des choses. Oui, Seigneur, j'ai pas été obéissant. J'ai besoin maintenant de te demander pardon. Je veux revenir à toi. Mais il y a des regrets qui peuvent nous amener à la mort. C'est la différence entre Pierre et Judas. Judas, il était plein de regrets. Vous vous souvenez, dans l'histoire de l'évangile, après qu'il ait trahi Jésus, eh bien, il a rendu l'argent au sacrificateur. Il a rendu l'argent. Il a dit, je ne veux plus. Il avait des regrets, mais il n'est pas arrivé à la repentance. Il n'a pas pu rencontrer le Seigneur face à face. Par contre, Pierre, lui, a reçu cette grâce où le Seigneur lui a dit, est-ce que tu m'aimes 3 fois? Ses regrets l'ont amené à la réconciliation. Il a été réconcilié. On peut avoir des regrets sans être réconcilié. Mais nos regrets peuvent nous amener à la réconciliation. Donc c'est le premier voleur. C'est les regrets pour le passé. Et le deuxième voleur de l'autre côté, c'est la peur du futur. La peur du futur qui nous paralyse. On sait qu'on doit faire quelque chose, qu'on doit s'engager, qu'on doit... Mais et si ça marchait pas? Et puis on se souvient de nos échecs précédents. Oui, j'ai essayé il y a quelques années. Et le Seigneur veut nous encourager. La peur est toujours un voleur. On marche ou par la peur ou par la foi. La peur, c'est l'incrédulité. La peur, c'est ne pas savoir qu'il y a papa derrière, que papa a parlé, et que papa va te prendre par la main et va te diriger là où tu as besoin d'aller. Ce sont ces deux voleurs. Est-ce qu'il y a des voleurs dans votre vie? Est-ce qu'il y a les regrets du passé, la peur du futur? Est-ce que vous êtes à un embranchement dans votre vie où vous devez prendre des décisions et vous engager? Je crois que c'est un très bon temps ici. Voilà. Vous savez, on est dans un monastère. Le Seigneur veut nous parler dans la tranquillité de son jardin, un face-à-face. Où est tombé le fer? Montre-moi. Et qu'est-ce que le prophète a dû faire? Il a pris un morceau de bois, et on peut parler de la symbolique de ce bois, la croix, hein, quelque chose qui est surnaturel. Jeter un morceau de bois va faire remonter un objet en métal. Illogique pour les hommes. Mais c'est ça, toujours la grâce de Dieu. Il nous demande de faire quelque chose qui ne paraît pas logique, mais qui, pour en finir, va faire ressurgir à la surface ce qui était enfoui. Non pas pour nous juger, non pas pour nous condamner, mais afin que nous puissions lui apporter et être complètement libre de l'esclavage. Voilà, c'était une pensée que le Seigneur m'avait mis très fortement sur mon cœur, à vous partager à vous personnellement. Et ce serait bien si on pouvait prendre un petit temps de prière, comme ça, devant le Seigneur. Hein, qu'on puisse prendre le temps, vraiment, on est devant lui, je crois qu'on a un petit peu de temps pour demander que le Seigneur nous parle, nous touche. Seigneur, nous voulons venir devant toi maintenant. Merci Seigneur pour ta parole est vérité. Et tu veux révéler toutes choses en nous, Seigneur, qui ont besoin d'être réconciliées. Et avant qu'on puisse parler de la réconciliation entre personnes, nous voulons, Seigneur, être réconciliés avec toi. Et Seigneur, s'il y a un moment dans notre vie où nous avons baissé les bras, où notre foi, notre ardeur s'est refroidie, Seigneur, nous voulons te demander de nous ramener, Seigneur, à cet endroit, là où le fer, là où le feu, là où le tranchant de notre vie avec toi, eh bien, est tombé. Peut-être avons-nous laissé ce premier amour. Seigneur, peut-être t'avons-nous négligé, délaissé, abandonné, peut-être avons-nous peur de toi. Peut-être avons-nous manqué de foi. Peut-être avançons-nous maintenant seulement par la force humaine et par la volonté de l'homme. Mais aujourd'hui, Seigneur, dans ce lieu, nous voulons revenir à toi de tout notre cœur. Nous voulons revenir à ce premier amour. Nous voulons revenir là où la hache est tombée. Et nous voulons te demander, Seigneur, s'il te plaît, restaure-nous. Ramène-nous, Seigneur, à ce premier amour. Ramène-nous, Seigneur, à cette relation intime, personnelle. Ramène-nous, Seigneur, à toi, notre Père. Nous t'invoquons, Seigneur. Nous t'appelons, Seigneur. Merci, Seigneur. Restez peut-être calme devant le Seigneur. Beaucoup communiquer avec lui, commencer à exprimer notre cœur devant lui. Parle, Seigneur. Parle à tes serviteurs.
Je suis le vrai cep. Mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut pas de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous non plus ne pouvez pas, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples.